Vous êtes sur Studio ZEF à Blois ou Radio Béton à Tours et c'est l'heure de Feuilles Vives, l'émission de reportage entre ville et campagne. Seizième épisode de Feuilles Vives. Après un petit bilan de fin d'année il y a deux semaines, on attaque 2018 avec un reportage sur le Salon des Vins du Coin qui a eu lieu au Château de Blois le samedi 2 décembre dernier. Une association de vignerons bio venus des bords du Cher, du Loir ou du Beuvron pour présenter leurs pratiques et vendre leurs vins à une clientèle locale. La veille, une vingtaine de vignerons se retrouvent pour les derniers préparatifs. Les caisses s'empilent par centaines sous la direction de Simon Tardieu, le jeune président de l'association.
Alors, c'est une régie commune. C'est un espace en fait, où vont être stockés tous les vins qui sont à vendre durant le salon. Et c'est vrai que nous, quand on n'a pas à préparer les cartons pour les différents clients, on a beaucoup plus de temps pour échanger, pour communiquer sur ce qu'on fait dans les vignes, sur ce qu'on fait à la cave, le projet de l'association, quoi.
Donc là, on a des caisses de différentes formes. Qu'est-ce que c'est ici? Qu'est-ce que c'est ces caisses coupines? Pourquoi il y a des numéros par terre?
Alors, en fait, on est sur le principe d'une liasse commune. Et donc, chaque vigneron présente deux ou trois cuvées, en fonction des disponibilités et puis de ce qu'il souhaite faire aussi. Et de toute façon, la limite, c'est trois. Si on part sur le principe d'une régie commune, ça fait déjà, pour le visiteur qui vient demain, ça fait déjà 61 vins à goûter. C'est quand même déjà pas mal, réparti sur 21 domaines. Et donc voilà, là en régie, l'alias, c'est donc une liste qui reprend le nom du viticulteur, son adresse mail, le nom des cuvées. Et si les vins ont plu et puis que les gens veulent en acheter, ils présentent leur liasse qu'ils auront à l'entrée en même temps que le verre. Et voilà, on dit monsieur Henri a acheté 3 bouteilles d'irréductibles et il fait ses petites courses avec sa petite liasse et il se présente à la régie quand il est prêt à charger. On est assez convaincus de ce qu'on fait, même si on le remet régulièrement en question par des échanges techniques entre nous. On est en association, on se voit aussi sur d'autres temps de commerce, ou on se voit dans les vignes. C'est aussi pour sortir un peu de l'entre-nous, quoi. Voilà. Pour différentes raisons, on n'est pas très disponible et peut-être enclin, je ne sais pas, à pratiquer vraiment la vente directe et locale. Et en fait, les vins du coin, c'est aussi pour retourner vers. On va dire les clients, c'est une chose, mais les gens du Loir-et-Cher, voilà. Et là, on le fait à Blois, donc effectivement, on attend quand même que ce soit d'un certain niveau de fréquentation, mais on a pris parfois le pari d'organiser ça à Thésée, à Chitney une année, dans des lieux où on savait que ça allait moins drainer, mais une fois de plus, c'est pour l'échange, pour la dégustation, pour avoir les retours aussi par rapport à ce qu'on fait. Il y a différents représentants de la filière, des gens impliqués au niveau professionnel qui sont invités. Je ne sais pas s'ils viendront, mais ça peut être aussi l'occasion d'échanger sur la bio, sur les vins nature, etc.
D'accord. Et est-ce que le seul but de l'association, c'est l'organisation de cet événement, ou alors est-ce qu'elle a une vie, une visibilité, une fonction pour vous en dehors de ce jour-là?
C'est en cours, en fait. On se rend compte qu'effectivement, si cette structure-là, elle peut servir aussi pour organiser de la formation, pour faire des voyages. Si on sort un peu de notre coin, on peut aussi attirer peut-être des jeunes qui veulent s'installer. Apparemment, ils sont quand même assez... La nouvelle génération veut plutôt faire dans le bio et dans la nature. C'est assez heureux. Mais il faudrait aussi pouvoir discuter avec des collègues qui sont peut-être sur le point de transmettre, voilà, ouvrir la porte aussi à ça. Des collègues qui sont en plein milieu de carrière, pourquoi pas réfléchir à la bio, voilà. Et peut-être que nous, on peut, en restant humble, donner à voir ce qu'on fait. Donner à voir, là, on va le donner à déguster également. Voilà, faut ouvrir, faut faire les ponts. Et c'est comme ça que les choses peuvent évoluer pour un projet associatif et plus globalement au sein d'une filière et au sein d'un territoire.
D'accord. Et concrètement, qu'est-ce qu'il peut faire dans votre action qui peut faciliter les installations, les transmissions, les conversions ?
Donner envie. Donner envie et ouvrir un espace-temps où on va échanger. Quand on échange, il en ressort toujours quelque chose.
Fondée en 2005, l'association des vins du coin regroupe une vingtaine de producteurs de vins biologiques et naturels. La viticulture bio est définie par des règles de certification européennes qui sont plutôt moins contraignantes que dans d'autres filières. Elles interdisent ou limitent l'usage de certains engrais et pesticides dans la culture de la vigne. L'appellation « vin naturel » ne fait-elle l'objet d'aucune certification précise. Elle désigne seulement des techniques de vinification moins artificielles qui s'ajoutent à une démarche agricole respectueuse de l'environnement. L'adhésion au vin du coin demande de se conformer à quatre principaux critères. Du raisin bio, des vendanges manuelles et une vinification réglementée qui limite l'utilisation de sulfites et qui interdit les procédés d'acidification et de chaptalisation. Un moyen d'augmenter le degré d'alcool du vin en y ajoutant du sucre. Le dernier critère est géographique. Les 21 exploitations sont toutes situées dans ou à proximité du Loir-et-Cher. Les deux tiers sont installés sur les coteaux du Cher, au sud du département. Le reste se répartit entre les vallées du Beuvron, en Sologne viticole, et du Loir, autour de Vendôme. C'est là qu'on trouve les vignes de Brendan Tracy, vigneron un peu fantasque et bien du coin, passionné de vin naturel et féru de biodynamie.
Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi est-ce que vous participez au vin du coin ?
Vin du coin, parce que il y a plein de potes qui m'ont initié au vin nature, qui y sont depuis le début. Moi, je faisais même même boulot que vous autrefois. Je travaillais en radio très longtemps. Et grâce à mon boulot, peut-être que vous allez faire la même chose que moi, qui sait. Faisant des portraits de vignerons, j'ai découvert la philosophie, la très belle philosophie des vins nature. Et à un moment donné, j'avais envie de faire autre chose que la radio. Parce que la radio, c'est bien, on brasse de l'air, de l'air chaud, en général. On raconte beaucoup de conneries. En plus, j'ai eu de la chance d'être payé pour raconter des conneries à l'antenne. Mais à un moment donné, j'en avais marre de raconter des conneries. J'ai envie de faire un truc vrai, vraiment vrai, quoi. Et le vin nature, c'est assez génial. Parce que c'est à la fois le travail du sol. Il y a la vigne qui est un peu l'interface entre le monde de l'invisible et puis après le cosmos. Et moi, je crois beaucoup dans la biodynamie. J'ai un calendrier lunaire. Je suis un peu lunatique aussi parfois, comme Eva. Et je crois beaucoup dans le côté vivant et le côté intéressant du vivant. Quoi. Et c'est ça qui m'a incité à faire ça. Et je m'éclate vraiment depuis que j'ai quitté la radio et que j'ai embrassé ce beau métier. Et donc, voilà, je suis avec des amis qui m'ont initié à tout ça, quoi, aujourd'hui.
D'accord. Nous, on entend beaucoup parler de termes en viticulture, mais aussi ici en particulier, de vin biologique, vin biodynamique, vin nature.
Ouais,
c'est
chacun...
quoi les rapports entre toutes ces appellations ?
Ouais, tout le monde a ça.
Qu'est-ce que ça recouvre comme réalité concrète, quoi ?
Bah, pour résumer, il y a de l'agriculture biologique, donc avec des maisons qui certifient, il y en a plusieurs. Donc on travaille dans le respect de la nature, etc. Après, les vins certifiés bio, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. Alors, j'ai plein de collègues qui mettent le logo AB, moi je refuse, sur les étiquettes, parce que je trouve que le cahier des charges est un peu trop laxiste. Donc moi, je fais du vin vivant et... tous ceux qui goûtent mes vins, ils comprennent tout de suite parce que j'ai des vins parfois un peu extrêmes, quoi, mais voilà, j'assume. Et donc, pour moi, la définition d'un vin vivant, c'est on n'ajoute rien et on retire rien. Donc moi, je suis un feignant, donc moi, j'interviens, mieux mes vins se font. Je trouve que la nature fait très bien les choses. Il faut être comme un bon père ou une bonne mère de famille, être là pour les enfants, juste les pousser dans le bon sens. À des moments stratégiques. Et après, je trouve que la nature fait très bien les choses. Et bon, l'idée, c'est aussi de ne pas faire du vinaigre au final. Donc, il faut quand même être assez vigilant sur des vinifs et sur l'hygiène, quoi. Et éviter de faire du vinaigre, quoi, au final. Et puis, entre les deux, bah, c'est comme des beaux enfants qui sont bien dans leur tête. Les vins vivants, quand c'est bien fait, c'est très agréable. Après, bon, en fonction du temps, la lune, la pression atmosphérique, j'ai vu que ça jouait. Les vins sont plus ou moins de bonne humeur. Et donc, il y a des moments où ils sont un peu moins fréquentables. Et puis, voilà, il faut prendre le risque du vivant. C'est comme avec les êtres humains, les animaux. Tous les jours, on n'est pas bien du nez, c'est le cas de le dire. Mais il y a des jours où c'est vraiment exceptionnel. Et c'est ça que je recherche et que je partage, j'espère, avec les gens qui boivent mes vins, quoi.
D'accord. Donc si on peut dire la distinction, c'est qu'un vin biologique, ça va être au niveau de la culture.
Oui, tout à fait.
L'apport de produits chimiques, alors que le vin naturel, ça va plutôt être refusé de faire des apports au niveau de la vinification.
Voilà, c'est ça. Ne pas mettre tous les intrants des vins technologiques, c'est-à-dire 98% des vins sur la planète et des levures sélectionnées, toutes sortes de produits pour clarifier le vin, le protéger, arranger le goût, etc. quoi. Personnellement. Après, il y a plusieurs définitions dans le... Chacun, en fait, il n'y a pas un cahier des charges officiel. Donc, un peu, chacun peut définir ça comme il veut, quoi. Moi, je vous ai donné ma définition, ma philosophie. Mais après, il y en a plein ici qui ne seraient peut-être pas d'accord avec moi. Je ne sais pas. Mais c'est pas... Moi, je suis pour l'anarchie. J'ai commencé, quand j'étais aux États-Unis, j'étais dans un groupe punk et j'applique cette philosophie à mes vins. C'est-à-dire que moi, pour moi, ce qui compte, c'est l'énergie, la sincérité. Et après, chacun définit sa musique ou sa punkitude ou son vin vinitude, quoi. Voilà.
D'accord. Et en termes de goût, concrètement, qu'est-ce qui change entre un vin nature et un vin pas nature, plus travaillé, plus artificiel?
Il y a l'ennui et il y a l'excitation. Quelque chose de vivant et c'est excitant. Et le vin travaillé, tout ça, c'est tellement prévisible que c'est boring, comme on dit en anglais. C'est très ennuyeux. Moi, mon truc, c'est vraiment de belles maturités pour avoir l'expression du fruit. Je fais sur les rouges des macérations carboniques ou semi-carboniques, c'est-à-dire des baies entières dans une cuve. Et comme je suis un feignant, donc je ne foule pas, je ne fais pas de remontage, je ne fais rien. Et je trouve que c'est une très belle expression des fruits. Et voilà. Mais après, je vous dis, hein, chacun a sa définition et sa façon de vinifier. Il y a tellement de paramètres possibles qu'on ne peut pas dire qu'un vin nature, ça goûte comme ça. Et non, c'est impossible.
D'accord. Qu'est-ce que ça apporte pour vous d'être dans cette association-là, au niveau de de l'exercice de votre activité?
Beaucoup d'emmerdes, là, on est obligé de donner un coup de main à tout le monde. Là, je commence à être vieux, j'ai mal au dos, là. Franchement, non, mais c'est comme un club de copains, de copines, quoi, qui, on essaie d'avancer dans la même direction et partager une certaine, cette philosophie-là, quoi. Même si on n'a pas un cahier des charges, on a quand même des grands critères. Quelques règles de base par rapport au vinif et tout ça. Mais voilà, non, c'est juste le fait d'être ensemble et puis se retrouver. Moi, je viens, c'est surtout pour voir tous mes potes, voir son du temps, parce que moi, je suis tout dans le Nord, quasiment tout ça. Et je vois pas grand monde. J'ai ma voisine qui est Ariane l'aînée. Et c'est la voisine proche, mais sinon les autres, je les croise pas souvent. Hein.
Vous évoquiez que le Loir-et-Cher, c'était pas forcément un gros marché pour vous, que votre clientèle est plutôt quoi, internationale, nationale, les grandes villes que...
Oui, 70% à l'export, et puis beaucoup Paris, et quelques grandes villes en France, et puis pas mal de pays de l'Union européenne, Allemagne, Grande-Bretagne, Belgique, Hollande, Italie, Espagne.
Bon, j'allais voir un coup, je crois.
Voilà. Oui, moi aussi.
À 19h, installation terminée, le château de Blois est prêt à accueillir le 13e salon des vins du coin. Tout un samedi de 10 à 18h, à voir défiler les visiteurs, à leur parler de ces vins, de ces méthodes de culture, de vinification, à peine le temps d'aller chercher à manger. Avant de faire une petite pause musicale de notre côté, on écoute les conseils de l'expérimenté Cyril Sevin, vigneron à Montpré-Chambord, et pas prêt de se faire surprendre par la faim.
Moi, je prévois toujours mon petit opéraire. Hier, je me suis cuisiné de petites quiches potimarron, jambon et maroilles. Là, je me suis régalé.
Sous les étoiles de septembre, notre cour allait d'une chambre et le pressoir d'un lit ancien, grisé par l'odeur des vendanges, je suis pris d'un désir étrange, né du souvenir des païens. Couchons ce soir sur le pressoir et tous les deux faisons cette folie, couchant ce soir sur le pressoir. Margot, Margot, ma jolie. parmi les grappes qui s'étalent comme une jonchée de pétales. Oh ma Bacchante, roulons-nous. J'aurai l'étreinte rude et franche et les tresseaux de ta chair blanche écraseront les raisins doux. Couchons ce soir sur le pressoir et tous les deux faisons cette folie. Couchons ce soir sur le pressoir, Margot, Margot, ma jolie. Sous les baisers et les morsures, nos bouches et les grappes mûres mêleront leur sang généreux. Et le vin nouveau de l'automne ruissellera jusqu'à la tonne, d'autant plus qu'on s'aimera mieux. Petit jour, dans la cour close, nous boirons la part de vin rose, œuvré de nuit par notre amour. Et dans ce cas, tu peux m'en croire, nous aurons pleine tonne à boire. Lorsque viendra le petit jour,
deux grands amoureux du vin, deux grands amoureux tout court, le chanteur bon et bien vivant Gérard Pierron chante Sur le pressoir du poète Gaston Coutet, mort dans la force de l'âge en 1911. Brendan nous en parlait avant la pause. Le vin naturel est avant tout un produit d'exportation. Et c'est bien là l'originalité de la démarche des vins du coin de proposer à une clientèle locale des bouteilles qui se vendent habituellement à l'étranger. On écoute Julien Pinault, vigneron à Mareuil-sur-Cher depuis 2 ans.
Pourquoi est-ce que tu as décidé de faire partie des vins du coin ?
Pour représenter un peu localement mes vins, parce que quasiment tout part à l'export. Et voilà, il faut les présenter aussi aux Blaisois et puis aux gens du Loir-et-Cher. Bah, parce qu'il y a quand même une éthique derrière ça. Hein. On est quand même des paysans en agriculture bio. Et bon, ça va, quand les vins font le tour du monde, ça pose des petits problèmes d'éthique aussi. Donc bon, on essaye de revenir un peu à ses fondements et à vendre localement. Ouais. Okay. Bah, clairement, on pourrait s'y vendre au marché, mais ça demande du temps tout le temps.
Y a beaucoup de vignerons ici, peut-être tous, dont la majorité des vins partent à l'export ou à Paris. Pourquoi est-ce que le marché est structuré comme ça ?
Pourquoi le marché est structuré comme ça ? Après, c'est nous qui le structurons aussi de cette façon-là. Moi, quand je me suis installé, j'ai eu pas mal de clients, des importateurs qui sont venus me voir. Et puis finalement, c'était bien plus simple de commencer comme ça, par des gros volumes. Et puis clairement, j'ai pas le temps de faire de la vente aux particuliers. Je suis tout seul à bosser. Voilà. Et j'ai pas envie de faire trop de salons non plus.
Pourquoi est-ce que les vins du coin, c'est un bon outil pour développer cette clientèle locale ?
Parce que c'est un outil qui fonctionne en collectif, voilà, avec un cahier des charges où on se retrouve tous, on est tous copains. Et voilà, c'est aussi le plaisir de se retrouver, de partager ça avec les clients.
Alors cette cuvée, c'est Irréductible en blanc. C'est un Sauvignon, millésime 2016. Voilà, donc des vignes, une parcelle de vignes qui a 45 ans. Et donc l'élevage a eu lieu pour partie en fût, voilà, fermentation alcoolique, élevage en fût. Et la fin de l'élevage s'est terminée en amphore.
En amphore ?
En amphore, en terre cuite.
J'ai entendu parler ça quelque part, c'est une nouvelle technique pour...
C'est du tout, c'est une très ancienne technique.
Non, mais qui a été repris nouvellement.
Mais qui revient un peu ça. De plus en plus.
C'est en Bourgogne que j'ai entendu dire ça.
Parce que c'est particulièrement intéressant au niveau des échanges gazeux entre le vin et l'atmosphère. Et tout en évitant ce que le bois des fois apporte, ça va être ses tanins du bois, tout le côté aromatique aussi au niveau du bois. Donc c'est un peu une redécouverte, puisque c'est vrai qu'on l'avait complètement oublié un peu des vinifications de l'élevage du vin. C'est particulièrement intéressant parce que le vin se comporte de manière un peu nouvelle pour nous, mais en tout cas ça donne plein de choses intéressantes, et notamment lorsqu'on utilise très peu de soufre, voire pas du tout, les vins se comportent bien mieux. Même s'il n'y a pas de généralité à avoir. Parce que c'est vrai que les amphores étaient très, très utilisés jusqu'au moment où on a commencé à faire déplacer le vin de plus en plus, que ce soit par les mers ou par terre. Et les amphores, c'était très fragile, un peu compliqué à transporter. C'est pour ça qu'on est parti un peu sur des barriques de transport, des barriques en chêne à l'époque de transport. Et avec l'arrivée de l'utilisation de la barrique, et arrivée aussi de plus en plus l'utilisation des sulfites et du soufre pour la conservation du vin. Et là, vous avez donc Crêpe de Gosse, qui est une cuvée à base de Cabernet, donc millésime 2015, et sur un élevage, lui, en fût en pièce de 400 litres. Et ça, c'est un petit hommage à mon grand-père, puisque j'ai repris les vignes de mon grand-père 20 ans après sa mort, et recréer le domaine. Voilà, c'est une petite dédicace, Crêpe de Gosse. Et puis, passion de mon père, qui est collectionneur de vieux camions. Donc c'est un petit clin d'œil un peu générationnel. Plus de structure. Ouais, voilà. Alors la température l'aide peut-être pas trop, mais vous voyez, il y a plus de matière tannique.
Et... Oui, d'ailleurs, oui, on
sent... C'est un vin qui appelle au repas, qui appelle à l'association, à manger avec. Et... Alors que les autres, on peut tout à fait les avoir en dehors du repas.
Ça va ça.
Celui-ci, entre 5 et 7 ans. Voilà, bah, même il peut se conserver plus longtemps, mais c'est à peu près généralement ce que je recommande pour le petit moment.
Ah oui, très bien.
Est-ce que je peux vous demander s'il vous plaît dans ce vin?
Alors, je suis pas un spécialiste, mais il est à mon goût très très bien, très très bien. Oui, on sent vraiment qu'il a de la structure. C'est vraiment un vin que moi j'aime bien. Voilà.
Okay. Ça veut dire quoi avoir de la structure pour un vin?
Bah, c'est un vin qui est goûteux, mais j'emploie pas les bons mots moi, mais qui pour moi correspond à ce que j'attends, voilà.
Structure, rondeur, souplesse, longueur, notre dégustateur venu d'Orléans spécialement pour l'occasion semble s'égarer quelque peu dans son lexique œnologique. Petite leçon de terminologie avec Alain Courteau, vigneron à Thésée et associé de Simon Tardieu que vous avez pu entendre en début d'émission.
La souplesse, ça fait penser à la sucrosité en fait. Mais un vin peut avoir de la sucrosité sans avoir du sucre résiduel. Ça dépend de sa constitution, de sa richesse en alcool, mais aussi de l'acidité. Des vins qui ont une belle richesse en alcool et très peu d'acidité, ça amène de la souplesse. Mais il y a également le côté, enfin moins pour les blancs, mais le côté tannique, c'est, ou astringent, qu'on peut avoir si le pressurage n'a pas été assez délicat, par exemple, on peut avoir des côtés un peu amers, astringents. Donc ça, c'est contraire à la souplesse.
D'accord.
Après, la structure ou le volume dans un vin, donc par rapport aux terres argilo-calcaires, c'est lié à la composition du vin en glycérol. C'est un sous-produit de la fermentation en plus de l'alcool. En fait. Et c'est ce qui apporte la rondeur au vin, l'amplitude. Et le volume en bouche, donc on le retrouve sur au niveau des gencives, ça vous écarte un peu le palais quelque part. Autrement, un vin qui est peu acide et qui est court, on va sentir un... Aujourd'hui, les vins sont beaucoup construits comme ça, sur l'arôme. C'est très flatteur au départ. Et après, quand vous l'avez en bouche, c'est très étroit, ça coupe, ça reste court, en fait. Donc un vin qui a du volume, ça emplit la bouche. Et après, il y a un retour qui est très long. En fait. Ça fait partie de la qualité d'un vin.
D'accord. Mais du coup, si on va chercher cette rondeur et cette durée, on va forcément perdre en attaque, entre guillemets, sur le...
C'est pas obligé, hein. On peut avoir quelque chose d'assez volatile, aromatique, mais sans excès. Mais après, ça se prolonge en bouche. Il n'y a pas de déséquilibre entre le côté aromatique qui est puissant et après en bouche où c'est très court. Un grand vin, c'est ça. Il y a le côté aromatique qui est présent, qui est subtil. Après en bouche, l'arôme se poursuit, ça emplit bien la bouche. Et quand on l'a avalé, il reste, c'est ce qu'on appelle la caudalie. c'est la durée d'expression du vin après en bouche. Enfin, c'est une mesure en fait du goût qui reste en bouche.
Un salon, une plateforme d'échange avec les consommateurs, les Vins du Coin, c'est aussi une association de producteurs qui ont une vision et une pratique similaire de leur métier de vigneron. Ariane Lenné est installée depuis 3 ans au domaine de Montrieux, sur les coteaux du Vendômois, où les producteurs de vins naturels sont plutôt rares. Selon elle, l'entraide apportée par certains membres de l'association a été déterminante dans la réussite de son installation.
C'est une asso où on peut retrouver tous les anciens qui ont démarré en bio et qui nous aident, nous, jeunes installés, à un peu à nous promouvoir et puis surtout à répondre à nos questions. Moi, je suis arrivée dans le Loir-et-Cher donc il y a 3 ans, je ne connaissais personne. Mais je connaissais déjà certains des vignerons, donc c'était un moyen pour moi de pas être toute seule, surtout que dans le coteau du Vendômois, quand je me suis installée, il n'y avait pas grand monde en bio, à part Patrice Collin. Et donc voilà, c'était une façon de trouver un groupe où on peut communiquer et on sait de quoi, et qui comprennent ce qu'on est en train de faire et qui vous soutiennent à ce moment-là.
D'accord. Et pourquoi c'est important d'avoir ce soutien-là ?
Parce qu'on est tout seul. On est tout seul et puis en plus on se prend des années assez difficiles au niveau de la production. Moi j'ai gelé 2 sur 2 années sur 3. Donc on a besoin de temps en temps d'aller souffler et puis d'aller se réconforter. Et que les anciens ils vous disent bah oui mais moi aussi et t'inquiète et on est toujours là et on y arrive. Voilà. D'accord.
Est-ce que vous avez des exemples, je sais pas moi, de prise de décision ou d'arbitrage que vous avez fait selon les conseils d'une personne installée depuis plus longtemps que vous
au niveau d'un élevage avec Philippe Tessier. Voilà, je parlais d'élevage sur un vin et suite à ça, il m'a prêté des demi-muits qui m'a prêté. Tiens, c'est des fûts, mais des gros fûts. Voilà, il m'a prêté gentiment et par rapport à du matériel aussi, il m'a prêté parce que c'est du matériel qui coûte cher et que je ne peux pas me payer moi toute seule. Et voilà, et donc c'est des échanges comme ça.
D'accord, donc au-delà d'un événement unique comme aujourd'hui, il y a une vraie fonction à l'année de cette association.
Exactement. Alors on se voit régulièrement, on se voit et on parle et on essaye de justement. L'idée, c'est qu'il y ait un vrai échange sur notre travail.
Ainsi, l'association des Vins du Coin est-elle appelée à devenir plus qu'un salon annuel de vins naturels et locaux ? Entraide, prêt de matériel, formation, voyage d'études, mais aussi suivi à l'installation, à la transmission, à la conversion en bio de son exploitation, ou même sélection génétique de cèpes, les liens entre ces vignerons du coin sont appelés à se renforcer dans les prochaines années. Un mouvement amplifié par la crise climatique que connaît la viticulture avec plusieurs épisodes de gel printanier consécutifs. Ariane, que l'on vient d'entendre, a perdu une partie de sa récolte 2 années sur 3 depuis son installation. Pour Julien, qui nous a parlé de circuits commerciaux un peu plus tôt, c'est 2 années sur 2. Ces épisodes de gel répétés encouragent les vignerons à s'entraider et à se structurer davantage. Ce salon annuel n'en est pas moins important, sinon pour des raisons commerciales, du moins pour des questions de visibilité. Certes, il vous arrivera peut-être de croiser Simon Tardieu au marché de Blois le samedi matin ou Cyril Sevin à la MAP d'Orchez un vendredi soir, mais le circuit long, voire l'exportation, reste la norme pour la production viticole, même chez les paysans vignerons des Vins du Coin. Épicerie de quartier, ruche qui dit oui, AMAP, nos reportages précédents montrent que les outils commerciaux et associatifs qui permettent le rapprochement des producteurs ruraux et des consommateurs urbains se multiplient pour de nombreux secteurs agricoles comme le maraîchage ou l'élevage. Mais le vin reste encore un peu à l'écart de cette dynamique. Certes, ce n'est pas une journée de salon qui changera la donne, mais c'est un bon début. Parce qu'un rapport ville-campagne sans pinard, je sais pas vous, mais moi, ça m'ennuie. Retrouvez ce reportage en podcast dans la rubrique Feuilles vives du site studiosf.fr. Trinqueuse, trinqueur, à bientôt.
Quelle belle vallée, avec ses fermes et ses fermiers, avec ses graines et ses greniers.